On va voir les représentants de l'école d'Alexandrie. Et le premier d'entre eux, c'est Clément d'Alexandrie, qui s'appelait, alors, il s'appelait Titus Flavius Clemens. Donc là, pas de problème. Comment il s'appelait avant? Donc Titus Flavius Clemens, qui est né plus ou moins entre 140 et 150, on ne sait pas vraiment, et qui serait mort en 215-216. Enfin, sûr qu'il est mort, mais la date exacte. Alors il est né, alors on ne sait pas très bien non plus où.
C'est alors, pas
Athènes, oui. Certains disent Athènes, d'autres disent Alexandrie. En tout cas, il est certain qu'entre 180 ou 190, il est à Alexandrie. Donc il est le disciple de ce Pantène dont je vous avais dû vous parler la fois dernière, qui venait de Sicile, lui, et qui avait ouvert une école catéchétique à Alexandrie. Et là, il va, lui, ouvrir une école chrétienne de philosophie. Il quittera Alexandrie sous la persécution de Septime Sévère, 202-203. Et il va mourir, alors on ne sait pas très bien non plus où, soit en Palestine, soit en Cappadoce. Donc vous voyez, on ne sait pas quelle année, l'année de sa naissance, l'année de sa mort, le lieu de sa naissance et le lieu de sa mort. S'il avait voulu être confirmé ou baptisé, voilà, on aurait eu beaucoup de mal à établir son dossier. Alors, de son œuvre, on connaît trois grands massifs, si on peut dire. Le protreptique, le pédagogue et les stromates. Alors, je vais vous expliquer. Alors, Clément s'adresse plutôt à une élite culturelle, aux païens qui cherchent un sens à leur vie et aux chrétiens qui aspirent à une foi réfléchie un peu au-delà des pratiques de piété ou de l'apologétique à laquelle ils étaient habitués. Donc on est un petit peu dans l'approfondissement de la révélation, donc c'est vraiment la théologie comme on dit. Alors le protreptique aux Hélènes, donc c'est le titre du premier ouvrage de Clément. Alors, comme son nom l'indique, c'est une exhortation à la conversion, et qui est un genre littéraire philosophique assez connu, puisque la philosophie à l'époque c'était un peu une voie de perfection, donc d'accomplissement personnel, et donc il y avait aussi dans les écoles philosophiques un appel à la conversion. Pensez à ce que je vous disais la fois dernière sur l'épistrophe des néoplatoniciens. On découvre qu'en fait on participe du divin, et donc on se tourne vers le divin en se détournant des choses matérielles. Voilà. Et donc vous voyez comment cette philosophie était aussi une morale, en somme, une mystique même. Alors, comme toujours, Clément va dire que le christianisme est la vraie philosophie, voilà, donc la vraie voie qui mène à la perfection, et il commence par une présentation du christianisme préparé, dit-il, par les poètes et les philosophes grecs. Donc, c'est le premier chapitre de son protreptique. Puis, il va montrer ensuite que les cultes païens sont une sorte d'infidélité à la vraie philosophie grecque, donc une sorte de chute, hein, de cette pensée qui préparait le christianisme. Et enfin, comme il s'adresse toujours à ses païens, eh bien, il les appelle à se convertir dans la ligne un peu de Platon, autrement dit, au logos, au verbe, à l'idée, en somme. Hein. Donc, c'est facile, on identifie le verbe de Saint Jean avec l'idée platonicienne. Et puis, donc, on invite les gens à se détourner des choses matérielles pour se tourner vers les choses spirituelles. Donc, voilà ce premier ouvrage. Premier chapitre, c'est donc l'idée qu'il y a une préparation évangélique de la part des païens, chez les païens, une prédisposition au christianisme dans la philosophie païenne. Ensuite, les chapitres 2 à 8, mais les païens ont été infidèles à leur propre maître en tombant dans des cultes idolâtriques. Mais on peut retrouver le chemin de la vraie philosophie en passant par le christianisme. Vous voyez ? Alors, le second ouvrage s'appelle « Le pédagogue ». Ah bah tenez, je vous ai mis un extrait du protreptique dans la feuille. La vraie gnose. Il me semble donc, puisque le Logos lui-même est venu du ciel à nous, que nous ne devons plus aller à aucune école humaine et ne plus nous soucier ni d'Athènes, ni du reste de la Grèce, ni non plus de Lyonie. Si en effet nous avons pour maître celui qui a rempli toutes choses des manifestations de sa sainte puissance par la création, le salut et la bienfaisance, par ses lois, ses prophéties et ses enseignements, ce maître maintenant nous enseigne tout, et par le Logos, le monde entier est devenu désormais une Athènes et une Grèce. Voilà. Donc le christianisme apparaît comme la plénitude de la pensée philosophique des Grecs.
Pourquoi est-ce que Platon, moi je suis une art en philosophie, Platon il avait dit quelque chose sur le Logos ?
Non. enfin si un peu, mais le Logos est un peu identifié, identifié à l'idée, aux idées,
c'est
au monde des
qui
idées.
Se dit, le Logos.
Comment ?
C'est l'idée qui se dit.
Oui, c'est l'idée qui se dit en fait.
Ah, oui.
Et toutes ces idées qui ont une existence immatérielle. Elles sont ce par quoi, alors chez un platonicien, ce par quoi on connaît les réalités concrètes qui en sont des participations finies, limitées. Donc on connaît, le problème de Platon, c'est qu'on connaît Dieu par Dieu, si on veut, ou on connaît par essence. Et puis, chez les néo-platoniciens, il y a l'idée en plus de plus morale, mystique. À savoir qu'on prend conscience qu'on est limité et que la limite c'est mauvais et qu'il faut retourner à l'illimité, c'est-à-dire à l'origine, à l'un. Donc il faut se détourner de tout ce qui nous limite, et ce qui nous limite essentiellement c'est la matière. Donc il faut se dématérialiser si on veut. Et vous voyez que le néoplatonisme est quand même assez proche de la gnose. La gnose, elle ira plus loin en disant qu'on a une petite étincelle de divin en nous. Enfin, on l'a ou on l'a pas. Si on l'a pas, c'est pas la peine de se convertir. Et si on l'a, il faut retourner à sa vraie demeure, à sa vraie patrie. Donc voilà, c'est un peu le mouvement des... Alors, le christianisme, lui... On va dire qu'on est dans un monde déchu, donc on est rendu fragile, qu'on veut souvent ce qu'il ne faut pas et qu'on ne veut pas ce qu'il faut. Et donc il faut effectivement se convertir et retrouver... Alors, la doctrine de la grâce surnaturelle, c'est l'habitation de Dieu en nous. Donc ça ressemble quand même beaucoup, finalement, aux idées gnostiques où... Donc, quand par exemple Saint-Pierre dit dans la première Saint-Pierre, la Prima Petri, donc chapitre 3.15, je crois. Non, c'est pas 3.15, c'est... je sais plus. Quand il dit « Nous sommes rendus participants de la nature divine », donc bah, il faut remonter le courant jusqu'à l'origine et pour vivre conformément à notre nouvelle nature qui est la grâce. Oui. Donc voilà le mouvement que propose Clément d'une manière assez très pédagogique, vous voyez, en prenant pas le taureau par les cornes, mais au contraire en montrant que les Grecs avaient trouvé des choses, mais qu'en fait les chrétiens sont allés jusqu'au bout et que les Grecs en cours de route s'étaient égarés dans des cultes qui étaient des cultes idolâtres. Alors dans le Pédagogue, qui est un ouvrage plus important, il va s'adresser aux païens convertis et il va parler d'éthique et de morale. Donc ceux qui ont fait le chemin de prendre cette vie chrétienne, maintenant il faut qu'ils se détachent de leurs mauvaises habitudes pour embrasser les bonnes. Et il prend l'exemple du pédagogue. Alors le pédagogue, c'était un esclave qui enseignait les enfants libres, hein, les libéri, hein, les enfants de famille. Alors, dans le premier livre, il montre que le Verbe, dans son rôle d'éducateur des âmes, le Christ est un enseignant aussi, donc il nous enseigne, alors par les paraboles, par le discours sur la montagne, enfin partout. Et puis dans les livres 2 et 3, il donne des indications pratiques, concrètes, sur comment faire pour... quels sont les principes de la vie morale chrétienne et aussi l'application. Alors, on a des renseignements, alors justement très intéressants, sur la manière de se comporter en chrétien dans la vie quotidienne, quant à la tenue, comment s'habiller, quoi manger, comment tenir sa maison, les fêtes, les plaisirs, le sommeil, les loisirs, les toilettes, les parures, les relations sociales, les professions à prendre ou pas prendre, et la vie conjugale. En fait, c'est comme un magazine féminin, quoi. Vous avez tout dedans.
Ça répondait au fait qu'en fait, le christianisme est une énorme libération vis-à-vis de la vie de tous les jours.
Oui.
C'est-à-dire que le Romain, quand il arrive devant sa porte, il ne marche pas sur le seuil qui est entre les deux montants, il passe du pied droit, sinon c'est mauvais signe.
Ouais, oui.
Et tout y compte, et toute la vie, tout
le temps. Il est rempli de petits rituels.
Ah, ceci, pas cela. Non,
ouais,
ceci,
oui, exactement.
Cela, ceci, cela. Et de cela, effectivement, les gens avaient tellement pris l'habitude, j'imagine qu'il a dû un peu rentrer un peu dans le monde.
Exactement. Et ben, en fait, la règle générale dans le pédagogue, c'est vivre avec simplicité et naturel. Voilà. Alors que effectivement, les païens sont souvent, on nous présente les néo-païens ou la nouvelle droite nous présente le paganisme comme une sorte de joyeuseté à la Rabelais. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est au contraire une vie dominée par le destin. Et rempli de choses trappes continuelles, où sans arrêt, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute de l'Ouest. Hein, sans arrêt, vous avez des péages. Il faut sans arrêt mettre la pièce dans le truc là, la carte dans le. Oui, parce que si vous faites pas ça, effectivement, vous attirez le mauvais sort. Si vous faites telle chose, vous avez la divinité qui est pas telle divinité qui est pas contente. Et les divinités, il y en a des tonnes. Hein. Alors aussi bien chez les Grecs que chez les Latins. Et les Latins, ils en ont encore peut-être plus parce que presque tout est divin. Tiens, ça me rappelle Hildegarde. Pas de Bingen, mais du Japon, là, notre Hildegarde, comment elle s'appelait déjà, Mitsuko, non?
Mitsue.
Alors Mitsue, elle nous racontait, enfin elle avait mis ça dans sa lettre à l'archevêque, elle avait dit qu'elle avait une... Oui, alors pourquoi elle avait pris Hildegarde? Parce que elle était sensible au fait que Hildegard de Bingen était, enfin disons, elle avait une sorte de sagesse aussi naturelle, et ça consonnait bien avec sa culture, parce qu'elle dit, chez nous, même un grain de riz a un esprit. Il y a un génie dans le grain de riz, jusque dans le grain de riz. Donc partout il y a des esprits. Donc là aussi. Une salade de riz, vous avez déjà tout un panthéon. Voilà. Et alors, si vous, alors, donc il faut pas contrister les esprits. Alors, donc ça veut dire que c'est une vie qui est extrêmement cadrée, encadrée, etc. On est pris dans des filets de pratiques, de rites et de.
Ça rappelle quelque chose.
Bah oui. Les mouvements sont exactement pareils.
Ah bah oui, c'est ça.
Ils sont retombés là-dedans.
Oui. Et alors les juifs, c'est pareil.
Une orthopraxie.
Oui. En somme, ce qu'il faut. Alors finalement, la vie morale, ça consiste à faire ce qui doit être fait. C'était le mos maiorum. Hein, c'était, vous savez, la grande idée de la religion romaine. De la religion romaine. La religion romaine, c'est faire ce que les Romains avaient toujours fait, sachant que on s'était plus ou moins rendu compte que ça leur réussissait, donc continuons à faire ce que les anciens avaient fait. Et là, vous allez avoir quand même les premières protestations avec les Cicérons et autres, les stoïciens, qui vont dire quand même que la vie morale ne se réduit pas simplement à une pratique, à une succession de pratiques, mais à l'exercice de la raison et l'écoute de la conscience. Alors, donc là, justement, ce que fait Clément, c'est d'essayer de libérer ces chrétiens de tout le poids des pratiques, puis aussi des non-pratiques, parce que il y avait un certain nombre de contemporains qui avaient fini par s'affranchir de ça, et qui, du coup, n'ayant pas de règles morales, faisaient n'importe quoi aussi. Alors, Clément ne pousse pas à l'ascétisme, mais à la mesure. Vous voyez, c'est un peu comme saint Benoît. Par exemple, il dira, c'est dans les Stromates, « De même que l'humilité ne consiste pas dans la macération... » Non, c'est bien dans le pédagogue. « De même que l'humilité ne consiste pas dans la macération du cœur, mais dans la douceur, ainsi... La tempérance aussi est une vertu spirituelle qui a son essence non dans ce qui est visible, mais dans ce qui est caché. Vous voyez, pas la macération, mais la douceur. Et on peut dire qu'il a une sorte d'idéal d'humanité, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à voir un petit peu les pépites de vérité, de beauté, dans la pensée et dans la vie des païens. Voilà. Et à partir de là, essayer de les amener à aller plus loin. Vous voyez, c'est un peu la philosophie de ne pas éteindre la mèche qui fume. Et d'ailleurs, donc son idée, c'est de ne pas redouter les philosophes, mais donc de discerner ce qu'ils ont de positif et... Et il dit ne pas redouter les philosophes comme les enfants qui ont peur de l'ogre. Vous voyez ? Donc, il essaie d'inculquer à ces chrétiens l'idée qu'on peut vivre en communauté avec les autres sans se renfermer dans le communautarisme, dans un ghetto. Ce qu'avait tendance à faire tout le monde, hein, en particulier les juifs, qui, à cause de leur orthopraxie, et qui était devenu l'odium humani generis, hein, la haine du genre humain, parce que, je ne sais plus qui disait ça, si c'est Titus ou un autre, qui disait le problème des juifs, vous les invitez, ils ne veulent pas venir parce que ce n'est pas le bonjour, vous leur donnez à manger tel truc, ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas la nourriture autorisée. Et alors, donc à la fin, mais donc vous voyez, ces critiques qu'on a entendues, qu'on n'entendrait plus aujourd'hui, bien sûr, mais qu'on a entendu encore il y a quelques décennies, eh bien, sont des critiques qui étaient déjà les critiques que faisaient les Romains et les Grecs en disant ils se retranchent de la vie commune, de la vie humaine, par leur pratique auto-ségrégationniste.
Mais ça vient de la Bible.
Oui, alors ça vient de la Bible, et il faut comprendre d'ailleurs de quelle période. Ça vient au moment du retour d'exil. C'est-à-dire que selon les bonnes méthodes des empires du passé, pour déraciner, enfin pour liquider un peuple, on le déporte. Alors on ne les tue pas, parce qu'il ne faut pas trop tuer les gens, ils servent quand même à travailler. Donc on les déporte. Et puis, parce que la grande idée, c'est que, globalement, ce qui fait la force d'un peuple, c'est son lien avec la terre, hein, avec les divinités chthoniennes, comme on dit, les divinités de la terre. Donc, si vous déplacez le peuple et qu'il n'est plus dans sa terre, vous coupez le lien. Donc, du coup, il devient beaucoup moins encombrant, parce qu'il est plus vivifié par ses dieux. Hein, repensez à Hercule, là, avec le géant, comment il s'appelait déjà, Anté. Hein, qui reprenait force en tombant par terre parce que Gaïa, sa mère, lui refilait du peps. Là. Mais alors donc, si vous déplacez le peuple, il a plus ses divinités souterraines, donc il ne peut plus être vivifié. Alors voilà, donc on les déplace. Alors on déplace un peuple là, et du coup, comme il y a un vide et que quand même il faut faire travailler la terre pour tirer des... Voilà, donc on redépasse un autre peuple à la place. Et c'est comme ça que quand les Juifs sont revenus d'exil grâce à Cyrus, ils se sont retrouvés avec déjà des gens qui occupaient leur chez eux. Et ils n'ont pas apprécié, évidemment. Mais comme ils n'étaient pas très nombreux, le danger pour eux, c'était de se fondre avec ce qu'ils appellent les gens du pays. Les gens qui étaient venus occuper leur territoire et donc se fondre, donc se perdre leur identité. D'où, à ce moment-là, toute cette législation d'apartheid, qui est vraiment une législation d'apartheid, pas de mariage interraciaux, pas de communication avec les autres... Enfin, exactement l'Afrique du Sud des années 50. Hein. Et à leur résultat, ils ont gardé leur identité, même en étant un petit nombre. Et ils ont considéré que pour conserver leur identité, il fallait avoir cette espèce de protection qui les rendait du coup infréquentables. Mais c'est ce qu'ils cherchaient. Et donc finalement... ça, tu l'as pas enregistré.
Si, bien sûr. Il faut que je...